Jésus t'appelle. Alors, Marc 10, et à partir du verset 46. Voilà ce qu'il nous est dit. Ils arrivèrent à Jéricho, lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond, il vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon maître lui répondit, « L'aveugle, que je recouvre la vue ?» Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Amen. Quel récit ! Je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments où on aurait aimé être à ce moment, dans cette période où Jésus s'est manifesté physiquement. Mais même si ce récit s'est passé il y a plus de 2000 ans maintenant, très loin de chez nous, du côté bien sûr d'Israël, eh bien, on va s'apercevoir que finalement notre vie parfois peut ressembler à celle de cet aveugle, dans ce qu'on vit, dans nos sentiments, dans nos frustrations. Et finalement, bien, dans avoir ce matin quelques clés pour nous aider, nous aussi, à nous lever, à rencontrer Jésus et à prendre courage. À prendre courage. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, vous le savez. Mais ce matin, bien, s'il y a au moins une parole qu'on pourrait retenir, cette parole, prends courage. Prends courage. Lève-toi, il t'appelle, Jésus veut te rencontrer. Alors, quelle est d'abord la condition de cet homme, comment nous est décrit finalement bien cet homme? Alors on a quelques renseignements, on a trois expressions. Il est dit que c'est le fils aveugle de Timée. Il est dit qu'il est assis et il est dit qu'il est en train de mendier au bord du chemin. Le fils aveugle de Timée, Bartimée, littéralement le fils de Timée, bien ça fait référence à sa propre famille. Et ce texte nous parle de cette manière que dans sa détresse, à cause de sa détresse, toute sa famille est également impactée. Toute la famille est touchée par ce drame. On ne sait pas si cet aveugle est de naissance, ou il a eu un accident, ou une maladie, etc. Mais quoi qu'il importe, quelle que soit la raison, toute la famille de cet homme est impactée. Lorsque mon propre père est tombé aveugle en 6 mois à l'âge de 36 ans, toute la famille a été bouleversée. Même s'il était adulte à l'époque, même s'il avait un travail, même si mes parents étaient mariés depuis plusieurs années, en un instant, en 6 mois, notre vie a basculé. Toute la famille était impactée. Et j'imagine que peut-être dans cette famille, il y a peut-être de la honte à cause de ce fils qui n'est pas comme les autres, qui est aveugle. Il y a peut-être de la culpabilité aussi. Parce qu'à l'époque, eh bien, on associait le fait d'être aveugle au péché. Alors, les parents se disent, mais c'est notre faute. Ils ont peut-être honte aussi de leur fils. Et le drame, ce drame familial, eh bien, il touche réellement toute la famille. Et peut-être que ce matin, vous êtes venu aussi dans ce lieu avec un problème personnel, mais parce que ce problème est aussi familial, vous avez aussi honte, vous culpabilisez. En disant, c'est de ma faute si ma famille en est là. C'est de ma faute si, bien, je suis dans tel état, et puis si autour de moi, les gens sont aussi impactés, s'ils ont honte peut-être de moi, ou ils se sentent culpabilisés. La deuxième information qu'on a, c'est que cet homme, il est assis. Il est assis au bord du chemin. Parce que pour lui, bien sûr, la vie est différente. Ce chemin au bord duquel il est assis, c'est un chemin de passage, on va dire, c'est un chemin de vie. Il y a des ouvriers qui viennent, qui sortent de Jéricho, il y a des familles peut-être qui se déplacent, il y a des enfants qui sortent peut-être pour aller jouer sur le terrain de jeu à côté, etc. Mais ce chemin-là, c'est le chemin de la vie active, c'est le chemin qui passe, c'est le chemin de la vie normale, de la société normale. Mais lui, il n'est pas sur ce chemin de vie. Il est assis, il est au bord du chemin et ça montre bien sûr pour lui sa résignation, sa fatigue, son usure. Et pour lui, sa destinée est toute tracée. Il vivra ainsi jusqu'à la fin de ses jours. Il vivra de cette manière jusqu'à la fin de ses jours. Et là, c'est peut-être aussi le constat de votre vie ce matin. Vous dites, mais rien ne changera. J'ai toujours les mêmes difficultés. J'ai toujours les mêmes problèmes. J'ai toujours les mêmes soucis. Toujours la même épreuve. Les mêmes souffrances. Et je vois les autres passer sur le chemin de la vie. Il semble qu'ils soient heureux. Il semble qu'ils soient épanouis. Et moi, je suis en dehors de tout cela. Et moi, je vis mon épreuve, ma souffrance. Je suis assis dans mon malheur. Comme Bartimée était assis dans son malheur, vous dites ce matin, mais moi aussi, c'est vrai que quelque part, je lui ressens parce que je ne suis pas comme les autres. Et je suis comme en retrait de la société. Je suis assis sur le bord du chemin. Et puis, la troisième caractéristique, il nous est dit que cet homme, Bartimée, il est en train de mendier. Alors, c'est pas un paresseux. C'est pas un opportuniste qui se dit « Oh, finalement, je vais profiter de ma cécité pour apitoyer les gens et profiter de la situation. » Non, non, pas du tout. Demander à Bartimée, d'ailleurs, sa demande, lorsque Jésus va interpeller, c'était qu'il retrouve ses yeux, qu'il ait une vie normale, qu'il ait du travail, qu'il puisse là aussi s'exprimer, etc. C'est pas ni un paresseux, ni un opportuniste, mais bien un malheureux qui n'a pas d'autre choix que de vivre, finalement, au dépens des autres. Il dépend de la générosité de ceux qui passent. Il dépend de la bienveillance de ceux qui passent. Alors, bien sûr, il ne le voit pas, mais peut-être que parfois, il y a des regards qui en disent long. Des regards de compassion, mais peut-être aussi parfois des regards un petit peu de pitié mêlés, dit « Ah, quel pauvre malheureux !» Et puis, on passe le chemin. Et ça, même si Bartimée ne le voit pas, il doit le ressentir. Et peut-être que ce matin aussi, vous ressentez ce genre de réflexion, ce genre de regard sur votre vie. Parce que vous êtes différent, parce que vous vivez dans une épreuve particulière, alors les gens ont un petit peu de pitié, un petit peu de condescendance par rapport à ce que vous êtes. Et cela nous blesse, cela vous blesse. Parce que vous vous sentez bien sûr comme bien malheureux. Et là, il y a quelque chose qu'il est obligé, j'allais dire, de mettre de côté, c'est sa fierté, c'est son amour-propre. Mendier, tendre la main, même si à l'époque, dans Israël, il y a une loi sur l'hospitalité, et il faut quand même, j'allais dire, oser tendre la main, oser. C'est tellement humiliant de dépendre des autres, dépendre de la générosité, dépendre de la bonté des autres. Et cet homme, il a mis de côté sa fierté, son amour-propre, parce que lui aussi, bien sûr, vit dans le malheur. Et peut-être que ce matin, dans certains domaines, vous ressemblez là aussi à Bartimée. Vous êtes dans un drame familial, et puis en dehors, comme en retrait de ce que la société propose, en dehors de ce que les autres font, et puis vous êtes bien sûr assis aussi dans votre malheur. Alors il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle ce matin, nous ne sommes pas obligés de rester dans cette position parce que Jésus va passer. Et la deuxième pensée pour nous ce matin, quelle va être sa réaction face à Jésus? Comment cet homme va-t-il s'y prendre? Eh bien pour que sa vie soit transformée, soit changée. Eh bien il va utiliser un sens qui est développé chez les aveugles d'abord, c'est son oui. Il est dit qu'il va entendre parler de Jésus. Il va entendre que Jésus est en train de passer. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et je suppose que c'est pas la première fois qu'il entend parler de Jésus, qu'il est annoncé à Jéricho. Je pense que depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, peut-être plusieurs années, je ne sais pas. En tout cas, il a entendu des choses extraordinaires qui le dépassent, qui ne comprennent pas. Il a surpris des conversations pendant que les gens passaient devant lui, où il a entendu, bien, et voilà, Jésus ici, dans cette région, il a nourri des milliers de personnes avec simplement 5 pains et 2 poissons. Et des enfants, des ados ont été nourris. Il entend aussi que là, à un autre endroit, bien, il a rendu la vie à une fillette de 12 ans. Ici, il a guéri une femme atteinte de perte de sang. Et puis, certainement, ce qui doit interpeller le plus, Bartimée, c'est qu'il entend que dans un autre village, eh bien, il a aussi guéri un aveugle. Il a guéri un aveugle. Et là, toutes ces conversations, eh bien, font naître en lui quelque chose de particulier qu'il ne sait pas encore. Mais Jésus dira plus tard, c'est sa foi. C'est sa foi. Et ce matin, eh bien, si vous aussi, vous avez déjà entendu parler de Jésus ou que des chrétiens vous aient rendu témoignage, eh bien, il y a des choses là aussi qui peuvent naître dans votre cœur. Vous dites comme cet homme, eh bien, je veux me servir de ce que j'ai entendu pour m'approcher de Jésus. En effet, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend de la part de Jésus est toujours quelque chose qui est destiné à nous construire, à nous encourager. Le monde, malheureusement, avec ses nouvelles, ses fausses nouvelles, ses vraies fausses nouvelles, eh bien, est parfois ou souvent destructeur. On entend des nouvelles qui nous font mal et puis qui nous déconstruisent, mais quand on entend quelqu'un qui nous dit, bien voilà ce que Jésus a fait dans ma vie, voilà comment Jésus a réussi là aussi à m'aider, eh bien, c'est quelque chose qui doit nous interpeller et qui peut faire nourrir en nous bien une semence, une petite semence. C'est ce que la Bible appelle la foi, la confiance. Et cet homme a dit, et si c'était vrai? Et si Jésus pouvait agir de la même manière pour moi? Et si Jésus, là aussi, pouvait faire quelque chose pour ma propre vie? Et lui qui est assis au bord du chemin, lui qui exprime pour l'instant sa résignation, sa fatigue, eh bien, dans le même moment, il y a quelque chose qui est en train de naître dans son cœur, comme une lumière d'espérance, comme une lumière de foi. Et ce matin, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour vous peut-être, qui venez dans ce lieu, si vous êtes là, c'est que quelque part, il y a déjà cette petite semence de foi. Cette petite flamèche, j'allais dire, cette petite lumière, mais elle est là, parce qu'elle a été nourrie par ce que vous avez entendu sur Jésus, de la part même peut-être de Jésus. Il se sert de son oui, et puis il se sert aussi de sa bouche. Il va exprimer sa détresse, il va exprimer sa souffrance, il va exprimer sa douleur par un cri afin d'être sûr d'être entendu. Jésus, aie pitié de moi. On peut pas se tromper. Il y a une souffrance, il y a une détresse qui est au fond de lui, et il veut être sûr d'être entendu. Alors il va crier sa souffrance, sa détresse. Peut-être que cette semaine, vous avez aussi, vous-même, crié votre détresse, votre souffrance. Peut-être que par pudeur, vous l'avez fait tout seul, dans un coin de votre habitation ou dehors. Mais il y a aussi ce cri de détresse, ce cri de souffrance qui monte. Et la Bible nous dit, dans un psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. » Il le sauve de toutes ses détresses. Et ça, c'est une parole qui est encore valable aujourd'hui. Quand la parole de Dieu est écrite, elle n'est pas simplement écrite pour le contexte de ses auteurs, mais cette parole est éternelle. Et aujourd'hui encore, la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Nous aussi, nous pouvons exprimer notre détresse, notre malheur à Jésus, et rien ni personne ne va pouvoir l'en empêcher. Rien ni personne, même la foule qui était là, qui était un petit peu dérangée par ces cris, on est toujours mal à l'aise hein, quand quelqu'un crie. On ne sait jamais trop si c'est pour être aidé, de douleur, de souffrance. Quand ça crie dans la rue, on se dit « waouh, il y a quelque chose qui se passe » et on ne sait pas toujours comment réagir. Mais là, personne ne pourra l'empêcher de crier à Jésus sa souffrance. Et ce matin, personne ne peut vous empêcher de crier à Jésus votre souffrance, votre détresse. De dire « Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je ne sais plus où j'en suis. Ma vie est détresse et souffrance. Je n'ai pas de perspective. Ma vie est comme dans un tunnel. Aie pitié de moi. » Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Oui, ce matin, eh bien, servez-vous de ce que vous avez entendu sur Jésus, pour laisser une lueur de foi se mettre en place dans votre cœur, et puis exprimez-vous, parlez, que ce soit à haute voix chez vous, ou en tout cas une prière secrète, eh bien, Jésus entend la prière du malheureux. Jésus entend la prière de celui qui est dans la détresse. Parce que il y a ensuite, eh bien, l'attitude de Jésus. C'est la troisième partie de ce texte. Il y a l'attitude de Jésus. On voit ce cortège de vie qui sort de Jéricho. Et là, bien certainement, les gens sont enthousiasmes, ça parle, on s'encourage, on vient questionner Jésus, et c'est une foule qui est vivante. Et que se passe-t-il? Que va-t-il se passer dans notre texte? Eh bien, j'aime bien ce passage, il nous est dit ceci: Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appellent l'aveugle en disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond, il vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon maître lui répondit : « Que je recouvre la vue. » Jésus lui dit : « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Le point de bascule, le point d'articulation, c'est ce moment où Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Et pourtant, il est entouré, pourtant, la foule est enthousiaste, pourtant, il y a peut-être un programme. On a prévu le repas à 12h30 là, pour Jésus, au prochain village. Et il faut y aller, bien sûr. Mais là, eh bien, Jésus va s'arrêter. Jésus s'arrête. Il se laisse interpeller par la détresse, par le cri de cet homme. Il s'arrête. Et quand Jésus s'arrête, toute la foule s'arrête. Il y a un immense cortège qui s'arrête. C'était pas prévu au programme. Hein? On voit souvent ces images à la télévision lorsque nos présidents ou nos rois sont dans un cortège à pied, puis à un moment donné, ils décident d'aller serrer les mains. Ah, c'est la panique à bord. Le service de sécurité n'a pas été, bien sûr, informé. On essaie de parer au plus. Mais voilà, c'est un besoin. Et là, la foule est ravie, hein, tout le monde est ravi de ce que le président s'est arrêté. On prend un selfie, on prend une photo, c'est inoubliable. Eh bien, ce qui était plus inoubliable ce matin, c'est que Jésus s'arrête dans votre vie. C'est que Jésus s'arrête dans notre vie. C'est qu'il prenne un temps, que nous puissions prendre un temps avec lui. Parce que quand Jésus s'arrête, eh bien c'est là que notre vie peut commencer, peut reprendre, peut s'épanouir, peut changer. Jésus s'arrête parce que son cœur est rempli de compassion. Parce qu'il a entendu le cri de détresse. Jésus n'est pas pris par un protocole administratif. Jésus sait prendre du temps. Ne dites pas ce matin, « Oh, ma vie n'intéresse pas le Seigneur. » Ne dites pas ce matin, « Oh, de toute façon, il est tellement occupé avec d'autres que moi, qu'est-ce que vous voulez que ce grand Dieu s'occupe de moi ?» Oui, Jésus va s'arrêter. Quand on interpelle Jésus, il s'arrête. Il n'est pas insensible à notre détresse, il va s'arrêter. Aujourd'hui, ce matin, c'est comme si c'était un temps où Jésus s'arrête, où Jésus va prendre du temps. Où Jésus, bien, veut que vous puissiez entendre sa parole. Où Jésus veut simplement, bien, vous parler, vous dire qu'il vous aime, vous dire que vous êtes précieux à ses yeux, vous avez de la valeur. Oui, ce matin, dans le brouhaha de notre vie, dans cette vie trépidante pour certains, etc., ce temps, c'est un temps où Jésus s'arrête. Et on peut prendre le temps, là aussi, bien, de partager avec lui. Quand Jésus s'arrête dans une vie, c'est une situation qui change. Quand nous interpellons Jésus et qu'il s'arrête, eh bien c'est là que les choses vont. Jésus s'arrête, et puis il est dit qu'il va appeler cet homme. Il l'appelle. Il l'appelle malgré la réticence de certains. Il crie plus fort, il va nous déranger, il va nous mettre en retard sur le programme, etc. Non, Jésus, il va s'arrêter, et puis il va l'appeler. Jésus, devant tout le monde, va appeler un malheureux, un méprisé, quelqu'un... pour certains qui est considéré comme moins que rien. Jésus devant tout le monde va honorer cet homme. Jésus devant tout le monde va l'appeler. Lui qui est habitué à être seul, à isoler, à ne parler à personne ou à dire simplement merci devant tous, eh bien Jésus va l'appeler, va lui faire l'honneur de l'appeler. Jésus l'appelle à s'approcher de lui. Jésus l'appelle à s'approcher de lui. C'est un des points essentiels ici, bien sûr, à retenir. Jésus est venu sur cette terre pour nous permettre de nous approcher de Dieu, pour faire le lien entre nous et Dieu. Si on pouvait un petit peu donner une image, il y a d'un côté Dieu qui est saint, qui est parfait, qui est éternel, et puis de l'autre côté, bien, il y a moi, il y a vous, ce que nous sommes, avec notre caractère, avec notre misère, notre détresse, c'est ce que la Bible appelle aussi le péché. Et entre le péché et puis Dieu qui est saint, il y a une falaise immense, on ne peut pas la traverser. On ne peut pas. ne peut pas s'approcher de Dieu, c'est impossible, il est trop saint, il est trop pur. Alors, eh bien, Jésus est venu pour faire le lien, pour faire comme un pont entre sur ces deux rives de falaise là, et puis de nous permettre de nous approcher de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, hein, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce matin, eh bien, Jésus nous permet de nous approcher de lui. Tout à l'heure, on était avec notre président de la République, là, qui est en train de voir la foule de signer les autographes. Et imaginez qu'à un moment donné, il dit, tiens, hop, là, le couple, ou la petite fille, ou le petit garçon, tiens, venez avec moi, je vous prends avec moi. Je sais pas si on a déjà vu ça dans un cortège, hein. La sécurité s'arracherait encore les cheveux, là, hein, certainement. Allez, je vous invite à l'Élysée, venez avec moi. Oh, ce serait vraiment le top, l'événement de la journée. Hein. Le président de la République a invité bien telle famille à venir manger avec lui à l'Élysée. Bon, j'ai jamais vu ça. Mais en tout cas, Jésus le fait. Jésus veut honorer celui qui se sent déshonoré. Jésus veut donner de la dignité à ceux qui se sent indigne. Jésus veut l'appeler. Et Jésus, ce matin, bien nous appelle. Il dira... Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Jésus nous invite. Il nous appelle. Et il nous connaît, il ne se trompe pas. Et puis, non seulement il l'appelle, mais il l'interpelle. Il l'interpelle, il va lui poser une question. Alors, j'en conviens avec vous, elle est étonnante. Hein. Jésus pose la question à un aveugle, que veux-tu que je te fasse? Bon, alors ça peut nous sembler déconcertant, voire complètement étonnant. Si on avait été à la place de Jésus, on aurait quand même dit, Seigneur, comme tu vois bien qu'il est aveugle, donc, s'il y a une chose quand même qu'il veut, qu'il souhaite, je pense, c'est qu'il retrouve la vue, enfin, je sais pas. Et alors on peut se dire, mais pourquoi Jésus lui pose une telle question, mais pourquoi Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Eh bien d'abord, c'est pour que cet homme puisse exprimer la réalité de sa souffrance, de sa détresse, mettre des mots sur sa souffrance. Voilà ce qui est à l'origine de mon malheur. Voilà ce qui me pèse. Voilà quelle est la source de mon épreuve. Voilà la source de mes difficultés. Et voilà pourquoi depuis maintenant des années et des années, je fais la honte de ma famille, je culpabilise peut-être mes parents et moi-même. Bien, je n'ai pas de contact, je suis exclu de cette société. Et ainsi, bien devant tous, Jésus donne l'occasion à cet homme de confesser son besoin, de mettre des mots sur sa détresse, sur son malheur. Alors je ne vous parle pas maintenant, ce matin, de faire une psychanalyse poussée, parce que je sais que là aussi, dans le domaine de la psychanalyse et autres, l'homme n'a rien inventé. Hein. On essaye parfois que des personnes en détresse mettent des mots sur leur souffrance, et ça va aider, bien sûr. Mais il faut aussi une solution, et Jésus va la donner, cette solution. On le sait, mais ce matin... Jésus te pose la même question, que veux-tu que je te fasse? Afin que vous puissiez aussi bien avoir cette confiance de pouvoir répandre votre cœur devant Jésus. Et puis, si quand même Jésus nous pose cette question, c'est pour que cet homme puisse proclamer quand même sa foi, sa confiance. Il aurait pu demander au Seigneur, bon écoute, donne-moi un petit peu d'argent, là j'en ai besoin pour terminer le mois, ou commencer le mois. Je sais pas. Il aurait pu demander peut-être un petit peu de nourriture, là. Il aurait pu demander ça. Il aurait pu demander un nouveau manteau, parce que le sien commence à être, bien sûr, bien troué, etc. Et je suis sûr que les disciples, la foule ou Jésus auraient donné de l'argent, auraient donné un manteau, auraient donné la nourriture. C'était pas un problème. Mais cet homme va demander quelque chose que seul Jésus peut lui donner. La nourriture, tout le monde pouvait donner. L'argent aussi, un manteau aussi. Alors il va oser mettre sa foi en action. Une foi toute naissante, toute petite, mais une foi bien réelle, parce qu'il va demander à Jésus quelque chose que personne ne pourra lui accorder. Il dit bien que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Quel est notre besoin profond ce matin? Ce qui nous semble impossible à combler par les hommes. Ce qui nous semble impossible à recevoir de la part des hommes. Et pourtant, je ne dis pas que dans certaines situations, les hommes ne veulent pas. Oui, il y a certaines bonnes personnes qui veulent nous aider, on est bien d'accord, qui vont tout faire, que ce soit dans le domaine des voisins, dans le domaine médical, au travail. il y a des bons patrons, il y a des bons ouvriers, et il y a des personnes parfois qui prennent en considération nos besoins. On est bien d'accord? Mais ici, bien, personne ne pouvait accorder à cet homme ce qu'il va demander, sauf Jésus. Dieu dira un jour, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas le ciel, si pour vous, bien, je ne fais pas quelque chose de particulier. En tout cas, ce matin, Jésus te pose la même question, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce qui te semble impossible? Quelle est la source de ta souffrance? Quel est le domaine dans lequel, là aussi, tu penses que tout est perdu? Que veux-tu que je te fasse? Jésus veut répondre à cette question de manière positive, parce que la suite du texte nous dit bien que Jésus va le guérir. En fait, Jésus lui répond bien, ta foi t'a sauvé. Et ce mot a deux sens, ta foi t'a sauvé. D'abord, ça veut dire ta foi t'a guéri. Et c'est une guérison physique que tout le monde va constater. Hein, en premier, cet aveugle qui... Alors, on ne sait pas si t'es naissant. Peut-être qu'il n'a jamais vu le soleil, qu'il n'a jamais vu le ciel, qu'il n'a jamais vu la foule, qu'il n'a jamais vu donc les maisons, etc. Et qui, en un instant, découvre tout ça. Je veux dire, c'est un choc extraordinaire pour cet homme, parce qu'il le constate. Et il y a une réelle guérison physique. Et quand Jésus dit, bien, ta foi t'a sauvé, c'est ta foi t'a guéri. Nous croyons aujourd'hui encore que Jésus guérit. Nous bénissons le Seigneur pour la médecine, pour les progrès, pour l'aide médicale. Et nous-mêmes, nous pouvons témoigner que dans certaines situations, eh bien, nous avons été aussi accompagnés, aidés dans le domaine médical. Nous avons été hospitalisés, on le confesse. Mais il y a aussi, bien, cette foi en nous que Jésus est celui qui nous guérit, là où les hommes ne peuvent plus, etc., eh bien, le Seigneur a toute autorité. Et si on faisait un sondage ce matin, juste en levant le bras, qui un jour a été guéri par le Seigneur d'une manière miraculeuse? Ça n'a rien à voir avec les médicaments ou une opération, mais Jésus est intervenu miraculeusement dans notre vie, simplement en levant le bras. Qui voilà, hein, donc, on pourrait tous témoigner ensuite. Eh oui, hein, que Jésus, un matin, un soir, dans des circonstances peut-être qu'on attendait, on n'attendait pas, eh bien, nous a guéris. Jésus guérit encore nos corps. Mais il y a aussi, dans ce terme, ta foi t'a sauvé, il y a également, bien, la guérison de notre esprit, de notre âme. C'est ce qui se passe pour cet homme. Une fois guéri, il va suivre Jésus sur le chemin, dans le chemin. Il aurait pu dire, merci Seigneur. Certains dans l'Écriture, on apprend que certains qui ont été guéris n'ont même pas remercié Jésus. Mais lui, il aurait pu le faire. Il aurait dit, merci Seigneur, c'est bien. Je retourne chez mes parents, ma famille. Mais il dit ici que, eh bien, suite à sa guérison physique, il va suivre Jésus dans le chemin. Ça veut dire que quelque part, dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, je vous l'accorde, appelez ça comme vous voudrez, dans son être intérieur, quelque chose s'est passé. Il se dit, bien, Jésus a fait plus que de me guérir physiquement, il y a quelque chose dans ma vie qui a changé. Il y a de l'espérance, il y a de l'espoir qui est né, il y a de la foi, et je sais que désormais, en suivant son enseignement, en suivant sa parole, eh bien, je suis sur le bon chemin. Et d'un statut où cet homme était aveugle, assis au bord du chemin, il se lève, il peut se diriger tout seul, et surtout, il va en profiter pour suivre Jésus. Et j'oserais dire, suivre Jésus sur le chemin de la vie éternelle. Parce que désormais, bien, sa vie a été complètement transformée dans son corps, dans son être intérieur, dans son âme, dans son esprit. Eh bien, Jésus a fait ce miracle de la vie. Et ce matin, eh bien, le Seigneur veut agir de la même façon à notre égard, en nous posant cette même question, que veux-tu que je te fasse? Et les disciples, les personnes qui connaissent peut-être le Seigneur, peuvent nous dire, bien, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ça, c'est la prière, c'est la proclamation de l'Église de Jésus-Christ. À toutes celles et ceux, bien, qui sont dans la détresse, dans la souffrance, dans l'angoisse. L'Église a un message ce matin, les croyants qui sont autour de vous ont un message extraordinaire, c'est « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». C'est pas le pasteur qui appelle, c'est pas le chrétien qui appelle, mais on n'est que des porte-paroles, et de vous dire « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». afin que ce matin, bien quelle que soit la détresse, le fond de votre cœur, vous puissiez aussi vous lever puis rejoindre Jésus dans ce cortège de vie. Il nous appelle ce matin à ne pas rester dans nos détresses. Amen. Je propose peut-être que ce matin, on puisse prier, on puisse peut-être rechanter d'abord ce chant « Abrite-moi ». « Abrite-moi sous tes ailes ». Oui, avec Monique et Corinne, on va rechanter ce chant pour que vous qui êtes venus ce matin dans ce lieu et ressemblez quelque part à cet homme dans sa condition, dans sa détresse, dans sa misère, dans sa culpabilité, dans sa honte, eh bien, vous puissiez aussi, comme lui, avoir une étincelle de foi. Et une